Bien, bonjour. Merci pour l'invitation, pour la présentation. Et je vais essayer d'être rapide. Je vais vous indiquer très rapidement donc, le trajet que je vais faire en 20 minutes. Je ne sais pas si j'arrive à le faire, mais ça part par une question. Ça démarre sur une question un peu stupide, énorme. S'enchaîne sur un jeu de mots, et puis sur une référence à un texte important à mon point de vue. Et puis après, je vais aborder le thème central de l'intervention, qui est que, pour donner l'idée de base, quand on parle du terme d'ambiance, en général, on suppose que cette ambiance est éprouvée ou ressentie par un individu, et que c'est l'ambiance d'un environnement global. Et je vais essayer de vous montrer qu'on peut parler d'ambiance propre à des interactions entre l'individu, d'une certaine manière, et l'environnement global. Il y a sens à parler d'ambiance dans l'interaction, et évidemment, à partir du moment où on cadre ça, le rapport à l'ambiance générale change. C'est plus des idées, comme disent les Anglais, c'est du food for thought. Il n'y a pas de méthodologie, c'est plutôt pour donner des concepts qui peuvent se relayer en piste d'enquête empirique et donc de méthodologie. La question de départ, dont je vous dis qu'elle est peut-être tellement énorme qu'elle frise le stupide, c'est que je travaille avec des paysagistes sur une zone commerciale. Je ne travaillais pas forcément avec eux, je travaillais sur une enquête empirique sur le fonctionnement d'une zone commerciale. Et puis là-dessus, avec des paysagistes, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a besoin de paysagistes dans une zone commerciale, quelle est la dimension, en quoi la dimension paysagère d'une zone commerciale est pertinente quand on va faire ses courses, est-ce qu'on est sensible au paysage ou pas, est-ce que c'est une question importante et donc c'est ça la question stupide, c'est à quelles conditions quelqu'un, un citadin, peut s'ouvrir à la dimension paysagère d'un espace. Et c'est intéressant de se poser cette question là où on ne la pose pas d'habitude. Alors, voilà ma question de départ. Comment est-ce que, à quelles conditions on peut s'ouvrir, on peut être saisi par un paysage, ou comment et à quelles conditions on peut parler d'un faire paysage porté par l'environnement? Alors, là-dessus, j'enchaîne sur mon jeu de mots. Qui est un jeu de mots entre français et anglais, parce que j'avais donné un topo sur la question devant un public anglophone, j'avais un peu, parce que quand on fait un jeu de mots en anglais, c'est sans garantie. Et puis là, ça a marché, donc je suis tranquille. En anglais, paysage, c'est landscape. Et en français, c'est substantif, mais on le verbalise peu. En anglais, landscaping, to landscape, fabriquer du paysage, avec des pelleteuses, avec des grues, avec des remue de la terre. En français, on dit environnement paysager, donc il y a le verbe, mais il est un peu passif, en fait. Et, vous voyez. Et donc, là-dessus, dans la littérature sciences sociales anglophone, des paysages, il y en a partout, un peu sur le mode de, en français de paysage au bout du visuel, mais c'est plus court en anglais, ça se dit scape. Soundscape, paysage sonore, ethnoscape, la badouraille, technoscape, mediascape, et voilà. Donc, landscaping versus, c'est là que vient le jeu de mots, scape, landing, c'est-à-dire atterrissage du paysage. Il y a tellement de paysages, il y a tellement de scapes, qu'au bout d'un moment, on se pose la question de savoir si ça correspond à une réalité, c'est-à-dire si ces paysages atterrissent vraiment et quel corps ces paysages-là saisissent. Scape landing, voilà le premier jalon de trajet. Donc ce néologisme de scape landing a le mérite de permettre de penser une autre manière pour le paysage de venir à forme ou à consistance, un autre trajet pour la Simung, le cher à Simmel, pour simplement prendre corps. Alors, donc, phraser les choses comme ça, scape landing, ça attire l'attention sur justement la disponibilité ou pas des attentions portées par ces corps qui vont recevoir ou pas un sens paysager. Ce qui peut faire obstacle à la venue au sens paysager, au faire paysage, c'est que les attentions ne sont pas disponibles. Quand on est dans un supermarché, on n'est pas spécialement en position de réception d'un paysage. On a plein de choses à faire, il faut surtout faire attention au trafic dans lequel on est pris. Alors, trafic interactionnel. Donc, pour accéder à la posture paysagère, il faut d'une certaine manière être quitte des vicissitudes de vigilance latérale à quoi nous astreint la pratique d'environnement densément peuplé. Et cela est particulièrement vrai dans des cadres urbains, et pourtant la notion de paysage urbain a un sens. Quand on est en ville, on a intérêt à faire attention aux mouvements des autres, aux attentions que les autres portent sur nous-mêmes et sur nos attentions, etc. etc. Et par exemple, on peut prendre la mesure du fait du caractère non naturel de la consommation de paysages en espace urbain, et notamment de paysages sonores. On peut prendre la mesure de cette contrainte en notant qu'un dispositif bien connu en matière de création sonore, qui est celui des soundboards, ne tient précisément que par l'imposition d'une convention explicite et partagée, faire attention, écouter le lieu, je dirais, une convention, un protocole, qui par parenthèse est un protocole qui institue un partage d'ambiance. Et précisément, ce protocole qui institue un partage d'ambiance fait venir l'idée que si on laisse les acteurs, les citadins à eux-mêmes, le partage d'ambiance s'opérera de bas. Vous voyez ? Alors. Et en l'occurrence, ce que fait le soundbox et le protocole de fonctionnement du soundbox, c'est qu'il permet, ce serait une position, de neutraliser un rapport d'alerte à l'environnement pour mieux souffrir au fond sonore dans lequel on évolue. Alors, l'inconvénient de cette première approche autorisée par ce jeu de mots de landscaping, c'est qu'elle introduit une opposition dure entre vigilance interactionnelle, faire attention aux conduites des autres, et sens paysager, comme si l'accès à la dimension paysagère ne pouvait se produire que par effraction. D'autant, je pense qu'il faut remettre les interactions dans le champ d'attention et dans le champ de réflexion sociologique, autant je trouve que l'opposition entre soit on fait attention où on met ses pieds, soit on est libre pour consommer du paysage, je trouve ça trop dur, ça m'embarrasse et je vais essayer de trouver une porte de sortie. Troisième temps, cette porte de sortie, je la trouve, en tout cas c'est comme ça que je lis un texte sur lequel je tombe, qui est un texte d'un anthropologue anglais qui s'appelle Tim Ingold, et qui écrit un très très beau texte sur je crois que le titre, j'en reçois, c'est Landscape and Temporality. Et pour aller vite, de ce texte, je sors une chose que je trouve très belle, qui est que fait un focus sur un tableau de Bruegel l'Ancien, La Moisson, dont on voit un paysage rupestre, bucolique, mais il y a des moissonneurs. Et c'est l'heure du repas, tout du moins. Et donc on voit toute une équipe de paysans qui moissonnent, une quinzaine de personnes, je dirais. Et puis dans le fond, on voit des châteaux, on voit etc. Donc des traces d'histoire, donc le thème de la temporalité. Mais ce n'est pas simplement la temporalité historique, c'est la temporalité pratique des gens qui travaillent. C'est-à-dire que, alors, il dit, donc du coup, si vous voulez, je vais décrire cette interaction, mais si je reviens à mon position de départ, j'ai une vigilance interactionnelle d'un côté, et puis de l'autre côté, un sens du décor, un sens de l'espace, un sens de l'englobement. En anglais, ça donnerait escape, donc task d'un côté, tâche, travail, escape de l'autre. Et donc, les vigilances interactionnelles, ça serait par exemple task, environment, et puis de l'autre côté, on a escape, paysage. Or, ce que dit Ingold, qui est remarquable, c'est que si on fait attention à ce qui se passe, aux actions qui ont cours dans le tableau, on se rend compte que ces actions sont emboîtées, elles sont engrenées, français engrenage, temporellement. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites attention au mouvement des faucilles, vous verrez qu'ils sont tels qu'ils ne seront jamais sur une trajectoire de collision. Si vous faites attention au mouvement des femmes, vous verrez qu'il y a des femmes qui portent au loin des bottes de foin et d'autres qui ramènent des victuailles parce que c'est l'heure du repas. Et donc, on a le sentiment d'acte, d'action, d'interaction, et on a le sentiment que ces interactions et ces actions sont syn-rythmiques. Elles sont toutes, vous pouvez toutes les cadrer comme étant dans quelque chose. Vous voyez ? Et ce que chacun fait, séparément, lui rappelle le sens qu'il est dans quelque chose, dans une unité perceptible et sensorielle, dans une enveloppe collective. Voyez. Et donc, en ce sens-là, on pourrait s'autoriser, et ça c'est ma lecture de Ingold, je ne sais pas s'il la ratifierait, à parler de taskscape, de paysage interne à l'investissement interactionnel. Voyez. Alors, cette solution pour moi est précieuse parce que elle, du coup, elle fait intervenir, elle impute dans la notion d'engagement interactionnel les deux pôles de l'actif et du passif, de l'action, de l'initiative et de la patience. Elle attire en tout cas l'attention sur le fait que les initiatives d'action reposent sur un lit de réceptivité partagée, une réceptivité ne serait-ce qu'à ce qui se passe. Ne pourrait-on pas, du coup, retraduire ce qui vient d'être décrit en termes d'ambiance ? Une ambiance propre, interne, à une emprise interactionnelle. Voilà le bout de chemin que je fais en lisant Ingold. Là-dessus, comme je suis sociologue micro-interactionniste, comme ça a été rappelé, je me dis, mais dans le fond, j'ai ouvert sur une opposition dure entre sens paysager et interaction et vigilance interactionnelle, mais est-ce que c'est si tranché que ça? Et que dit la micro-analyse d'inspiration kaufmannienne, notamment là-dessus? Alors, Goffman, ce qu'on pense savoir de Goffman, c'est que met en scène des acteurs malins, un peu manœuvriers, un peu roublards, qui sont habiles à surfer entre les embarras. C'est vrai qu'il y a ça, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas ça, mais ça ne suffit pas. Et c'est même, si on va voir de plus près, par exemple, un texte comme World Distance, on s'imagine qu'on s'arrête à l'exemple du gosse sur le manège, on s'imagine que Goffman nous explique comment les gens peuvent jouer avec leur rôle. Alors que la conclusion, elle est exactement l'inverse. Elle est que même quand ils jouent avec leur rôle, ils sont joués par leur jeu avec leur rôle. Donc c'est plus compliqué que ça. Alors je dis ça très rapidement parce que du coup, je vais pointer un segment du travail de Goffman qui est complètement passé sous silence et largement par le fait que ça n'a pas été traduit en français. 50 ans après, deux textes, Theater in Public Places et un autre texte compact qui s'appelle Finding Game, jouer dans prendre plaisir au jeu. Parce que dans ces deux textes, on va tomber sur une notion qui est centrale, qui est la notion, alors, donne des problèmes de traduction en français, parce qu'on va dire d'engagement. La cécité des acteurs chez Goffman, elle nécessite comme toujours déjà engagé, pris dans quelque chose. Et le terme anglais, très fort, est involvement. Involvement. En portugais, j'ai entendu hier que involvement. Le veu en français, on s'en sert, on n'utilise pas cette racine-là, sauf en anatomie et pour désigner une partie anatomique qui appartient à la moitié de l'humanité. Donc, involvement, être pris par, être absorbé dans un autre terme, engrossment, être ravi par. Voilà. Donc voilà. Donc une grosse mettre, comment dire, abonde sur le point que je voulais faire, c'est-à-dire que cette idée qu'on peut parler d'un in de l'interaction, d'être dans une enveloppe, dans une robe interactionnelle et pris dans cette interaction. Et du coup, le rapport d'être pris dans l'interaction bouge la question de savoir comment on est pris dans une ambiance plus générale, dans un univers. C'est ça mon point d'insistance. Alors, très rapidement, Behavior in Public Places. Il y a quelque chose dans Behavior in Public Places. Un des premiers chapitres s'appelle The Rules of Involvement, les règles d'implication. Comprendre la société, c'est savoir non pas comment elle nous astreint à faire des gestes, mais comment elle nous demande plus, c'est-à-dire d'être engagé et impliqué. Et donc, une attention aux attentions, je dirais. Et Goffman va donner un jeu de deux concepts, deux fois deux couples conceptuels. Je vais vite, mais j'espère vous faire sentir qu'il y a là des outils d'analyse dont personne ne se sert, ça fait 50 ans qu'ils sont sur le marché. Bon. attention dominante, principale, attention latérale. En termes d'investissement cognitif. Premier couplet, première opposition. Deuxième opposition, attention dominante, c'est-à-dire socialement exigée, attention subordonnée, c'est-à-dire moins exigée socialement. Maintenant, vous avez ces deux notions. Vous prenez le monsieur qui est dans l'ascenseur, la dame, et selon que les commandes des boutons se passent d'un étage à l'autre, ou d'un étage à cinq étages, vous pourrez voir que son attention dominante qui est de surveiller que les gens rentrent, etc., et descendent aux étages, n'est plus, à certains points, ne devient plus, n'est plus son attention principale. Parce qu'il va consacrer son attention cognitive à lire le journal, qui est une attention subordonnée du point de vue de son contrat de travail, mais qui devient son attention principale du point de vue de son engagement cognitif. Voyez. Donc, le point, c'est la flottaison des attentions. Et du coup, si vous avez en tête cette idée que les attentions sont flottantes et versatiles, vous comprenez que des règles de co-investissement dans l'attention deviennent des règles sociales fondamentales. Le deuxième point conceptuel, c'est le concept de membrane qu'on va trouver partout dans Goffman, mais particulièrement développé dans Fun and Games. Goffman, il dit, mais c'est terrible, on s'intéresse au jeu. C'est devenu un concept, une métaphore, un modèle pour penser les relations sociales, les interactions stratégiques, grosso modo. Et c'est tout ce qu'on retient des jeux, et on va parler de jeux d'acteurs, c'est toutes ces choses-là. Mais il y a une chose qu'on oublie qui est fun in games. Qu'est-ce qui fait qu'on ait plaisir à jouer ensemble? Et l'idée est que ce plaisir s'installe quand le jeu nous sépare du monde, d'où l'idée de membrane, Et la deuxième idée est que le jeu ne nous sépare jamais réellement du monde, mais que cette membrane-là est une membrane qui fait passer du réel, qui filtre du réel, qui travestit, qui déguise le réel. Et la troisième idée, elle est que si le jeu n'a aucun rapport avec le réel, il est complètement déconnecté de la réalité et donc il est sans intérêt. S'il a trop de rapport à la réalité, il devient la réalité et le jeu disparaît. Par exemple, un match de foot, ça se joue sur une pelouse et il y a une séparation avec le reste du monde. Mais si les équipes représentent deux villes, il y a un influx de réalité qui donne plus d'enjeu au jeu et plus de réalité, plus d'investissement. Voyez. Ou si vous jouez au poker avec des peanuts, rien du tout, au même moment vous ennuyez. Donc il faut les mises vont monter. Mais évidemment, si les mises montent trop, si c'est de la survie économique d'un des joueurs, à ce moment-là, c'est plus du jeu, c'est la vie même. Voyez. Donc voilà, il y a cette idée de membrane, de porosité de la membrane, de porosité contrôlée. Et c'est cette idée-là, moi, que j'essaie de travailler, mais là, j'aurai pas le temps, mais peut-être je donnerai des exemples dans la discussion, sur des cas de figure où on peut montrer que ce que j'essaie de vous expliquer, c'est-à-dire le poids des ambiances interactionnelles par rapport comme médiateur ou pas, comme séparateur des ambiances générales, peut varier selon la membrane, du coup l'intérêt de faire attention à la membrane. Alors je donnerai juste un exemple, j'en aurais fini comme ça, là j'en suis à 21 minutes, hein, parce que je comprends. Un exemple simple, place des canons à Tanger, j'étais pour un colloque, le soir, clair de lune, on voit la côte espagnole de l'autre côté, un liseré de lumière, la lune est pleine, le ciel est clair, c'est un paysage labellisé patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis sur cette place en balcon, je peux accéder au paysage, j'ai fait des kilomètres, j'y crois, je sais que là j'ai là quelque chose sous les yeux que j'aurais pu deux jours. Simplement, il faut traverser une foule dense, essentiellement masculine, dans la pénombre, qui parle fort, des groupes, etc., etc. Et donc, comment je me prends? Je ne fais pas attention, c'est tout aussi inconscient que les ambiances. J'imagine que je j'essaie de marcher assez vite, et puis je prends un air très inspiré, très pénétré, qui signifie, pour reprendre le titre de ce beau film sur Rotterdam, I'm not there. Je passe. Et donc là, je me sers de mon corps et de mes yeux et de mon regard comme la membrane qui va me séparer des interactions avoisinantes. Puis je terminerai, dans le papier, vous trouverez un exemple beaucoup plus. Traité d'une fête de village, mais je terminerai sur une citation de Goffman où on va voir que la membrane, un peu plus compliquée, n'est pas quelque chose qui va vous séparer du monde, c'est au contraire l'interaction, la manière dont on va entrer en interaction dans un cadre plus général, va permettre aux interactants de rejoindre et de prendre toute leur place dans ce cadre environnant. Vous allez voir, et je terminerai là-dessus. C'est un exemple que prend Goffman, le site au détour d'une phrase dans Family Games. Il est celui de la sortie, sortie le soir dans un restaurant chic. Et des effets d'identification de la chose. Je le cite. De cette manière, il se peut que, pour autant que la qualité de la conversation et de la cuisine soit à la hauteur, il se peut donc qu'un humble établissement en soit transfiguré, mais aussi, fût-il cet établissement élégant, que cette qualité autorise alors une identification profonde avec le luxe du décor, l'excellence du service et même le statut social des groupes présents aux autres tables. Une identification à laquelle nous ne nous résoudrions pas s'il n'y avait pas eu ce travestissement du processus. Vous voyez, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, l'interaction arrive à cadrer le cadre de manière positive et consonante. Et on retrouve le concept de résonance culturelle dont il était question hier, sauf qu'il n'y a pas le mot de culture dedans, et qu'à la place de résonance, il y a plutôt une aise dans l'interaction. Alors, pour contraster cet exemple de félicité d'épreuve du cadre qui demande beaucoup aux gens, qui demande aux gens de crypter, de coder leur entrée dans le cadre de manière à transfigurer le sens, on peut s'arrêter sur ce qui se passe quand ça ne marche pas. C'est-à-dire, j'ajouterai donc, je terminerai là-dessus, parce que j'en ai fait l'expérience, que si par exemple la conversation, c'est-à-dire l'interaction, n'est pas au rendez-vous, disons, dans un restaurant 2 étoiles, le sens qu'on y est, somme toute, chez les Bourges, est quelque chose qui suffit à gâcher la soirée, outre que nos poches sont vides. Voilà. Je terminerai pour ça.
Merci beaucoup, Samuel. Je vais passer la parole pour demi-heure ensemble.